Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et on reprend en heure extraordinaire notre interview et notre intervention avec Clémence, directrice au CNRS en informatique, à qui nous avons parlé de l'état des lieux de l'université et du monde de la recherche et typiquement du CNRS. Nous avons parlé ensuite des différentes réformes à venir, mais il y a quand même une dernière petite réforme là qui fait un peu parler d'elle, c'est celle des retraites. Et il y a un impact particulier des retraites par rapport aux enseignants-chercheurs.
Oui, enfin, comme tous les fonctionnaires, en fait, on est... Et comme énormément de monde, donc cette...
On est niqué.
Voilà. Exactement.
Alors, on est niqué, mais il y a une particularité, c'est que les enseignants-chercheurs attaquent des postes de fonctionnaires parfois relativement bien salariés, mais ils l'attaquent très tard.
Oui, ils l'attaquent très tard. Et donc, effectivement, pour faire le nombre d'annuités requis, c'est extrêmement compliqué. Et puis, apparemment, par rapport au reste de la fonction publique, on est dans les professions qui ont le moins de primes. Donc, les réformes sur la retraite visent à prendre en compte les primes pour les fonctionnaires, mais nous, on en a très peu, donc ça va pas changer grand-chose, et donc ça va mal.
Les estimations de plusieurs syndicats, tout à fait analysées et remises en place par plusieurs analystes, parlent d'une baisse pour, typiquement, les enseignants du premier degré de 850 euros en moyenne par mois de baisse des retraites. On parle de 1250 pour les enseignants-chercheurs.
Alors après, je vais être honnête, je suis pas spécialiste des chiffres, mais effectivement, c'est assez catastrophique. Les estimations que les collègues font, c'est de l'ordre d'un tiers de nos retraites qui vont disparaître.
Mais en même temps, grâce à la labellisation du temps de travail, les chercheurs vont bosser jusqu'à 88 ans.
Mais oui.
Donc, il n'y a pas de problème.
Enfin, ils pourront bosser, mais ils ne seront pas payés passé 78. Hein, faut pas déconner non plus. Hein. Alors, l'idée est aussi que...
Ils ont confondu indépendance et dépendance, en fait.
Par un petit coup de passe-passe... Cette baisse brutale des financements des retraites, qui vont faire disparaître une tonne d'argent des dépenses de l'État, c'est ce qu'on appelle la FPE, la fonction publique d'État, qui va voir sa part patronale, un peu comme une entreprise, qui n'aura plus de charges. Et dans les 15 ans à venir, si on en croit le gouvernement, elle va passer de 74% à 17%.
Ouais.
Ça va dégager quelque chose comme 50 milliards, de 36 à 55 milliards, suivant les calculs, sur cette part-là. Et c'est finalement cette énorme somme d'argent qui va servir à venir réformer l'université selon les désirs du gouvernement actuel.
Voilà. Alors, effectivement, c'est incroyable. On nous dit qu'on a un déficit dans les recettes et dans les retraites, et donc on commence par diminuer la part que l'État cotise pour les retraites. Donc, on crée une économie incroyable pour l'État, donc qui est censée servir effectivement à financer cette loi de programmation pluriannuelle pour la recherche et donc à augmenter la part que l'État investit dans la recherche, à la fois dans la recherche publique et dans la recherche privée. Alors, autant on a beaucoup parlé des changements de statut et de choses comme ça, autant on attend encore des propositions concrètes. Moi, j'ai rien entendu pour dire comment cet argent va arriver dans la recherche publique et qu'est-ce qui va être apporté. Donc, la ministre a parlé d'une minuscule augmentation de salaire pour les maîtres de conférences débutants, donc les jeunes chercheurs en début de carrière. Enfin, en début de carrière quand ils sont en poste titulaire. Ils sont évidemment pas du tout en début de carrière par ailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est minuscule par rapport aux sommes qu'il faudrait mettre. Donc un des objectifs affichés, c'est d'amener la part de la recherche publique à 1% du PIB. Il manque encore de l'ordre de 5 milliards d'euros pour y arriver. Et on ne sait pas du tout ce que prévoit le gouvernement là-dessus.
Et pourtant, la ministre a dit, cette loi n'est pas une loi de propagation thématique ou de structure. C'est une loi de
propagation.
Programmation, c'est juste un mot que je dis 10 fois par jour. C'est une loi de programmation budgétaire. Donc elle dit évidemment, comme souvent, le contraire de ce qui est annoncé. Alors tout ça, ça fait bien mobiliser le monde des universités. Plusieurs universités sont en blocage. Alors pour une fois, on n'en parle pas. Et pourquoi ? Parce que le blocage ne vient pas des étudiants, qui se sentent beaucoup moins concernés par les retraites vu la longueur du temps à venir jusqu'à une éventuelle retraite qui les attendra on ne sait pas quand. Mais ils ne sont pas aussi très conscients, semble-t-il, de la baisse de qualité des universités. l'université parce qu'ils ont débarqué dans des lieux qui déjà fonctionnaient relativement mal. Ils n'arrivent pas à imaginer la suite peut-être. Cette mobilisation est quand même assez amusante. Il y a des déambulations. Par exemple, tous les jours à 12h45 sur le campus de Jussieu, il y a un truc assez rigolo.
Oui, il y a une prise de parole en public, donc une déclamation qui est faite d'un texte où les participants affirment qu'ils sont contre la réforme sur les retraites et contre cette loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Et c'est accompagné de quelques chansons, voilà, des reprises de chansons connues, des tournées pour parler de retraite et de recherche.
Quelque chose d'assez rigolo aussi, c'est que les universités n'ont pas toutes le même... stabilité politique, en tout cas la même spécificité. On peut parler par exemple de Paris 9, dite Paris Dauphine, qui est une université qui globalement a des thématiques qui sont un petit peu à droite de l'échiquier politique et qui a mis un grand carton sur la porte qui s'est dit « même Dauphine est en grève ». On a même pu voir une banderole dans les manifs avec Dauphine et un poids rouge levé. Il faut quand même le voir pour le croire, il a fallu vraiment que je m'approche pour comprendre. Dans cette logique-là, il y a des choses un peu plus institutionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour savoir combien il y a de chercheurs, d'enseignants-chercheurs en colère, il suffit de regarder le nombre de motions. Et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de laboratoires en France qui n'ont pas fait une motion contre ces différentes lois.
C'est ça. Donc il y a une énorme protestation qui s'élève de la part de tout le domaine de l'enseignement et de la recherche publique contre ces lois. Donc il y a des organismes nationaux comme le Comité national de la recherche scientifique dont les présidents des différentes sections ont fait une motion pour exprimer leur attachement à une recherche qui soit un service public, qui soit sur le long terme, qui soit pérenne, qui donne des carrières attractives aux chercheurs. Il y a effectivement tous les laboratoires qui prennent position, les directeurs de laboratoires. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde, je crois que c'était lundi ou mardi. Il y a 700 directeurs de laboratoires, je crois, qui ont signé cette tribune. Il y a des présidents d'universités qui s'expriment. Alors, comme tu le disais, effectivement, ils ne sont pas tous du même bord, donc certains ne s'expriment pas, mais certaines prennent position en exprimant à nouveau leur attachement à un mode de fonctionnement de la recherche qui permette de faire une recherche pérenne. Donc oui, il y a une énorme levée de bouclier contre cette loi-là.
Il y a même eu, tenez-vous bien, la réunion des doyens de fac de médecine d'Île-de-France qui ont protesté.
Oh.
Quand on en est là, il ne reste plus grand-chose. Alors justement, la journée de mobilisation principale devant nous, c'est celle du 5 mars, qui a été appelée journée morte, ou en tout cas journée fac morte. Même l'université Paris 8 veut aller un petit peu plus loin. Elle veut même vider les locaux, carrément, c'est-à-dire vider les tables et les chaises.
Ouais, littéralement, j'ai entendu. Ouais. Ouais.
On verra, il y aura peut-être bien un peu de bruit. Le 5 mars, et même d'ici le 5 mars, si rien n'avance, on ne pense pas que quelque chose avancera.
Je trouve que c'est vraiment irrévérencieux, parce que le 5 mars, c'est l'anniversaire de la mort de Staline.
Eh bien, que faire, disait son prédécesseur. Mais dans tout cela, nous avons évidemment à parler d'autre chose que de l'université et de la recherche, parce qu'il y a eu d'autres chercheurs dans l'histoire, des gens un peu plus anciens, qui, aux alentours de l'avant-guerre, ont été des penseurs, parfois un peu plus nauséabond que tout ce qu'on vient de citer, n'est-ce pas, Alex ?
Voilà, je vais parler d'un temps que les moins de 80 ans n'ont pas pu connaître, et d'une période qui était bien pire que la nôtre, voilà, et dont il nous reste des beaux souvenirs. Alors on va commencer par une petite devinette.
Non, c'était pas pire, on savait s'amuser à l'époque.
Oui. On faisait des grands voyages. Quel est le point
C'est
commun
le train-train quotidien.
Exactement. Quel est le point commun entre Hergé, Hitler et Le Pen ? Personne ?
Je ne tenterai pas, non.
Lui, il sait, mais bon. Donc, ils ont tous les trois rencontré la même personne, le même personnage, qui est un Belge, qui s'appelle Léon de Grelle. Rencontrait ou fréquentait Léon de Grelle. Et alors, c'est un personnage, hein, parce que c'est...
C'est le grand-père de Léon de Bruxelles.
Il avait la frite, en tout cas. Personnage, car si De Grelle allait faire une bonne affaire, et effectivement, il l'a racheté, il a fait une bonne affaire. Donc, on ne sait pas. En tout cas, le petit Léon donc grandit dans ce milieu-là, brasserie belge, un petit peu d'argent, une bonne bourgeoisie, milieu ultra-catholique, où on est facilement très à droite de l'époque, donc très à droite, antisémite, etc. À 15 ans, il découvre Maurras, et il se découvre une passion pour Maurras. Il écrit même une dissertation sur Maurras, qui est remarquée, qui lui valent un prix, etc.
Maurras, c'est la chanteuse belge,
non, Charles Maurras. Enfin bon. Et très jeune, donc, il gravite dans ce milieu-là. À 20 ans, il rencontre l'abbé Valèze, comme un certain Hergé. Et l'abbé Vallès est le directeur d'un journal pour jeunes qui s'appelle Le Petit Vingtième, et qui l'engage. Il devient journaliste. Après, il passe d'ailleurs dans d'autres journaux. Il devient même très très jeune, à 25 ans, directeur d'une maison d'édition qui appartient au Parti catholique, à l'Église catholique et au parti autour, qui s'appelle Rex. Et c'est donc c'est à ce moment-là
comme
en fait
au
Petit Vingtième qu'il va rencontrer Hergé, qui va devenir un copain. Et d'ailleurs pendant longtemps après, il va affirmer que Hergé s'est inspiré de lui pour fabriquer le personnage de Tintin. Et alors il y a des tintinologues qui ont fait la recherche et on a pu démontrer que non, il n'y avait pas de rapport entre Tintin et Léon de Grelle. Mais il va faire aussi à ce moment-là peut-être la seule chose bien de sa vie, vraiment. Alors, l'histoire un peu complexe, c'est qu'en 1929, à la suite de l'assassinat du président mexicain par un certain Terral, et il publie un article, donc dans Le Soir, je crois, qui célèbre l'assassin en disant que, en tant que catholique, il faut soutenir absolument Terral parce que il l'a fait pour défendre la religion catholique contre un président. Il y avait eu la révolution au Mexique contre un président qui était anti-catholique. Et alors du coup, ça fait un énorme scandale en Belgique. Et ses patrons, un peu pour se débarrasser de lui et puis un peu parce qu'ils savent pas trop comment faire, l'envoient en reportage au Mexique. Alors, il a passé 9 mois au Mexique et il va revenir et il va écrire un bouquin un peu à la façon de Tintin, Mes aventures au Mexique, qui va être un best-seller dans lequel en gros c'est un peu Bernard-Henri Lévy en fait, Léon de Grelle à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une part de vrai, puis il raconte plein d'histoires,
comme clairement. L'épilation des sourcils de Frida Kahlo.
Voilà. Et c'est à peu près à cette époque-là, vers 1930, début des années 30, qu'il va faire son tournant politique. Et il devient de plus en plus politique et il se rend compte dans le Parti catholique et dans l'Église catholique qu'il est très très fort pour ça, que c'est un tribun très bon, qu'il est capable d'organiser une association de jeunesse, qu'il est capable de... Il arrive à fabriquer une organisation à 40 000 militants jeunes catholiques. Et donc du coup il est nommé responsable des mouvements de jeunesse du parti. Problème, c'est qu'il est vachement à droite, c'est-à-dire que même pour le parti catholique conservateur chrétien-démocrate de l'époque de Belgique, il est un peu trop à droite. Il va se fâcher avec pas mal de dirigeants du parti parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop mous et trop démocrates et qu'on a besoin de gens un peu plus engagés. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il décide de racheter Rex pour justement avoir un peu plus de liberté par rapport à l'Église catholique. Et c'est là qu'il va y avoir le drame. Dans un meeting, il va insulter un certain nombre de dirigeants du parti, publiquement. Et il va prendre d'ailleurs la précaution avant de demander à 300 de Rexistes de son mouvement de bloquer les portes pour éviter que les gens sortent. Et alors, insulte suprême, il va traiter le cardinal Van Rouille de Van Grenouille. Et donc du coup, le lendemain, il est viré du parti. Les élections de 36 approchent, donc il décide de partir seul, avec son mouvement, de fabriquer un nouveau parti. Et il fait 11% des voix, du jour au lendemain. Et à ce moment-là, il est vraiment à son sommet politique, il sera jamais plus haut que ça. Il a inventé le rexisme, il a inventé un parti fasciste belge, la version surréaliste belge du parti fasciste mussolinien. Et il est persuadé qu'il va avoir un destin. Il est persuadé qu'il va devenir le Mussolini de la Belgique. Problème, c'est qu'un an après, ça s'effondre. Nouvelles élections en 1937. Mouvement Rex perd partout. De Grelle s'est vanté partout qu'il allait battre le candidat du parti catholique dans une des principales circonscriptions de Bruxelles. Il se fait étaler au premier tour. À ce moment-là, il a 31 ans. Il est fâché avec toute une partie de sa famille.
Fâché ou facho ?
Il est facho et fâché avec toute une partie de sa famille, avec ses anciens employeurs. Et en même temps, il est à la tête d'un parti qui, a priori, lui dont il est persuadé qu'il a un grand avenir et qui, a priori, en a pas tellement. Il s'imagine qu'il va avoir un destin. Et effectivement, il va avoir un destin parce que coup de bol, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Énorme coup de bol pour lui. C'est là que son destin va vraiment se forger. Donc, dans un premier temps, il y a le drôle de guerre. Pendant ce temps-là, il est plutôt pour la neutralité. Il défend la neutralité belge, il défend le roi. Il veut même s'engager. pour aller combattre les Allemands, alors qu'en 1936, il a fait le pèlerinage à Berlin pour aller rencontrer Hitler et qu'il a considéré ça comme une des grandes étapes de sa vie, de rencontrer Hitler, il est devenu fan. Mais il est quand même patriote avant tout, donc il veut s'engager. L'armée refuse. Puis l'armée allemande envahit la Belgique. À ce moment-là, tout le monde prend peur en Belgique. On est persuadé que les Rexistes, avec leur tendance à admirer Mussolini et Hitler, font partie de la cinquième colonne. Donc ils décident d'arrêter un certain nombre de militants Rexistes, et notamment de Grelle. Comme l'armée allemande avance et envahit en une semaine la moitié de la Belgique, on décide de l'envoyer à l'arrière. Donc on l'envoie en France. Finalement, il est récupéré par l'armée française. Il est envoyé de prison en prison, par la police aussi. Il se fait passer à tabac. Et finalement, quand l'armistice est signé en France, il est libéré à la demande des Allemands. Et lui va dénoncer en fait un certain nombre de personnes qui l'ont passé à tabac justement. Voilà. Les trois personnes qu'il a dénoncées, il y en a un qui va finir en camp de concentration, les deux autres en prison. Voilà, c'était une connerie, il fallait pas. Et c'est à ce moment-là, du coup,
Non, il fallait le finir.
Voilà. Et à ce moment-là, il va rentrer dans une période un peu étrange, là, de 40 à 41, où lui, il est persuadé qu'il doit avoir un rôle fondamental dans l'histoire de la Belgique, que c'est son moment, mais il n'y a que lui qui en est persuadé. C'est-à-dire que le roi ne veut pas entendre parler de lui. Le gouvernement collaborateur en Belgique, enfin, qui n'est pas vraiment un gouvernement, mais une sorte de gouvernement technique, ne veut pas entendre parler de lui. Les Allemands trouvent que c'est un guignol. Ils n'ont pas tort. Et coup de bol.
En même temps, ils avaient un stock de guignols aussi. Hein.
C'est vrai. Mais tant qu'à faire, ils n'avaient pas besoin d'un de plus belge de surcroît. Donc du coup, re-coup de bol, Hitler décide d'attaquer l'URSS. Et là, idée de génie, parce que quand même, il connaît plein de monde, De Grelle va voir tout le monde en disant « Moi, je suis capable de fabriquer une armée wallonne, une armée belge, francophone, qui va aller se battre contre les communistes. » Parce que Rex, c'est d'abord anticommuniste. Antisémite aussi, mais anticommuniste avant tout. Et donc, il va inventer la Légion Wallonne. Alors, au début, il a du mal à recruter. C'est-à-dire qu'au début, en 41, ils arrivent à recruter 200 personnes. En 42, ils arrivent à en recruter 400. Finalement, en faisant le tour des prisons et des prisonniers de guerre, ils arrivent à... Le maximum qu'ils vont avoir, c'est en 44, avec 4800. Mais bon, comme il est assez fort pour l'autopromotion... il va quand même obtenir le fait de Grelle que la Légion Wallonne devienne une division SS, alors que normalement il faut 7800 membres et qu'il n'y en a que 4800, mais ça deviendra la SS Division Wallonie.
Quel honneur. Et
le type, il va tellement loin dans l'autopromotion, dans ce BHLisme exacerbé, qu'il décide, pour montrer que vraiment il s'engage là-dedans, il va décider de s'engager dans la Légion Wallonie en tant que simple soldat. Donc on l'envoie là-bas. Alors après, ça dépend des versions. Dans certaines versions, il est blessé 7 fois. Dans d'autres versions, il est blessé 5 fois. J'ai jamais réussi à avoir la bonne version. Mais en tout cas, effectivement, il est blessé à plusieurs reprises. Et en fait, il passe son temps à faire des allers-retours entre le front en Russie, Berlin, où il essaye de se mettre en avant, et Bruxelles, où il essaye de rameuter du monde pour aller dans la Légion Wallonne. Il a passé 3 ans à faire ça. Et il commence comme simple soldat, il finit comme Standartenführer von die Wallonie, ou von der Wallonie, un truc comme ça. C'est-à-dire que...
Standartenführer, il fait des manteaux en peau de castor.
Et même Sturmbrigaden, c'est-à-dire l'équivalent de général de brigade. Standartenführer, c'est l'équivalent de colonel. Et... oui, mais j'ai le temps. Et...
Avec le temps.
Va. On va quand même avancer un peu. Et il va même devenir responsable SS de toute la Wallonie en 45, c'est-à-dire vraiment pas au bon moment. Et donc là, il est à son sommet, c'est extraordinaire. Il rencontre à nouveau Hitler, il se fait décorer. Et d'abord, il reçoit la croix de fer, puis après la croix de fer deuxième classe, puis après la croix de fer deuxième classe avec feuille de chêne, ce qui est exceptionnel pour un non-allemand. C'est un héros de guerre, réellement. Et en même temps, toute l'année 45, enfin tout le début de l'année 45, c'est comment, en même temps qu'il a réussi un aboutissement en fait de sa carrière de SS, comment est-ce qu'il va réussir à se tirer de ce guépier? Donc il va rencontrer Heinrich Himmler, ils vont se mettre d'accord sur une espèce de modus vivendi, partent ensemble au Danemark, ils se perdent l'un l'autre au Danemark, finalement ils passent en Norvège, il arrive à réquisitionner, parce qu'il est quand même Sturmbrigaden SS, il arrive à réquisitionner le dernier bombardier allemand qui est stationné en Norvège, il arrive à persuader 3 pilotes de l'accompagner et de partir en Espagne. C'est un vol direct Oslo-Saint-Sébastien. À Saint-Sébastien, ils ont plus d'essence. Il n'y a pas vraiment de piste d'atterrissage. C'est pas prévu de toutes les manières. Alors plutôt que de se faire battre par l'aviation espagnole, ils décident d'amerrir. Évidemment, c'est un Heinkel sans, c'est pas du tout fait pour ça. Donc l'avion explose en deux. Les 5 occupants ou les 4 occupants sont blessés. Ils se retrouvent à l'hôpital à Saint-Sébastien. On est en avril-mai 45. Et là, Franco est vachement embêté, il ne sait pas quoi faire de ce guignol. D'autant que la Belgique vient de libérer et le gouvernement provisoire belge demande l'extradition. Il est jugé en Belgique par contumace et condamné à mort.
Bonne idée.
Voilà. Les soviétiques ne seraient pas contre le récupérer non plus, avec à peu près la même finalité. Et il y a des négociations qui ont lieu, et à ce moment-là... L'Espagnol décide de le protéger pour une raison un peu étrange. C'est qu'en fait, ils avaient déjà Laval avant et qu'ils avaient été obligés d'extrader Laval. Et donc, ils veulent pas que ça devienne une habitude, que tous les gens qui viennent d'Allemagne ou tous les anciens collabos qui se réfugient en Espagne soient extradés. Donc, ils disent « Ok, on a lâché pour Laval, mais De Grelle, c'est la Belgique, c'est pas très important, on va pas lâcher comme ça. » Donc, ils mettent la barre assez haut. Ils demandent ils sont prêts à extrader De Grelle, mais à condition qu'il y ait une normalisation des relations diplomatiques entre la Belgique et l'Espagne, qu'il y ait une sorte d'accord de libre-échange entre l'Espagne et la Belgique. Et là, Spack, qui est le premier ministre belge à ce moment-là, dit « pas question ». On ne lâche pas pour si peu. Donc du coup, Franco dit « bah nous, on n'extrade pas ». Ça remonte jusque à l'ONU. Et finalement, il y a même un vote de l'ONU là-dessus. Sur l'extradition de De Grelle, et finalement il ne sera pas extradé. La Belgique va demander 3 fois ou 4 fois l'extradition de Grelle, mais en fait à chaque fois ça va être refusé, d'autant qu'à partir de 54 il est naturalisé espagnol. Et alors il change de nom et il devient, enfin tout le monde l'appelle toujours De Grelle, mais il devient Léon José de Ramírez Reina. Reina comme Rex, Léon comme Léon. Et là, il va commencer.
Une connardo comme connard.
Exactement. Et là, il va commencer une nouvelle carrière. Il va écrire des bouquins et il va se présenter comme l'héritier d'Hitler. Et il va écrire des bouquins merveilleux du style Un Reich de 1000 ans, La Cohue de 40. Enfin, ça va être un grand moment de gloire. Tous les fachos et tous les nazis européens de l'époque, tous les néo-nazis viennent le voir en Espagne. C'est une espèce de gourou de ces mouvements-là. Et dans lequel il explique en fait qu'il a une relation filiale avec Hitler, que Hitler lui a dit que Hitler l'admirait, lui, Léon De Grelle, et que s'il avait été jeune, il aurait aimé être Léon De Grelle. Voilà. Pour terminer. Voilà. Ben oui, oui, parce qu'il faut terminer quand même.
Oh.
J'avais une magnifique citation. En 1988, on a voulu Le Pen passer à l'heure de vérité. On a voulu l'embêter. On lui a demandé quelles étaient ses relations avec De Grelle, sachant que De Grelle était un néo-nazi furieux, négationniste de surcroît. Et il a répondu « Je connais Léon De Grelle comme je connais un certain nombre d'hommes politiques mondiaux. C'est un monument de la Seconde Guerre mondiale et un personnage historique tout à fait extraordinaire. Mais c'est un vieux monsieur qui se donne une influence qu'il n'a pas. »
Voilà. Toute ressemblance avec des personnages français ayant existé ou existant encore n'est pas fortuite.
Exactement.
Alors on va quand même arrêter l'émission un jour. Alors ce n'est pas l'émission SM. Avec le Rexisme en marche. Ce n'est pas l'émission SM, vous en êtes rendu compte. C'était bien l'émission Mode d'emploi qui a poursuivi pratiquement une demi-heure de plus. On va quand même se quitter en remerciant notre invité Clémence.
Merci à vous.
Pour la chronique d'actualité Jean-Marc, à la chronique altermondialiste Gaël, à la chronique un peu longue mais très intéressante historique Alex, on remercie à la technique Fanette et surtout Ludo. Et puis on fait un petit coucou à Jean-Yves. Bien entendu, on se quitte en écoutant cette anti-Saint-Valentin, Anaïs, mon cœur, mon amour.
Mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur, mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur. Ça dégouline d'amour, c'est beau mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd, de mots doux à chaque phrase. Elle est bonne ta quiche amour.